Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et de retour avec nous, évidemment, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et voilà, venue la dernière série de nos chroniques culturelles de l'Europe de cette année 2022. Bien évidemment, nous serons de retour l'an prochain. Année en tous les cas où on n'a pas toujours été à la fête, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, c'est sur ce thème que vous voulez la conclure, me semble-t-il.
Savez-vous, Sébastien, ce qu'est un néorthologiste ?
Je vais vous laisser le dire, même si évidemment, ça m'est tout à fait familier.
C'est en tout cas ce que j'ai essayé d'être en préparant cette chronique. Je ne connaissais pas le mot, Sébastien, mais Wikipédia m'a appris que l'néorthologie, c'est la discipline des sciences humaines qui étudie les fêtes. Ah. C'est très modestement ce que je propose de faire, de la façon, disons, la plus festive possible dans les trois chroniques que je consacrerai à l'Europe de la fête. La période de fin d'année nous y invite, bien sûr, et nous ne manquerons pas de revenir sur ces fêtes de Noël en Europe. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de revisiter notre histoire européenne pour y retrouver l'ancrage de cette tradition de la fête, qui n'est pas une spécificité européenne, disons-le, et qui n'a pas toujours été paisible, on le verra. Une tradition de fête dans laquelle la construction européenne, nous le verrons aussi la semaine prochaine, a cherché à s'inscrire, mais qui reste tout de même, autant dans sa dimension religieuse que civile, très attachée aux différents territoires et sociétés. Le mot fête est d'ailleurs lui aussi porteur de sens assez divers, nous y reviendrons.
Bon, cela dit, après 170 chroniques, je commence à vous connaître un petit peu et je suis sûr que vous allez nous emmener dans l'Antiquité et du côté de la Grèce, de Rome.
Quelle perspicacité, Sébastien. Alors, nous allons en Grèce où les jours de fête étaient très nombreux, plus de 60 par an et parfois beaucoup plus localement. Il faut dire que du fait de la pratique de l'esclavage ou du servage, les citoyens avaient beaucoup de loisirs. Des fêtes liées à la nature, comme celles des moissons ou des commémorations de faits historiques ou légendaires. Le plus souvent, pourtant, ce sont des célébrations en l'honneur des dieux, et chaque cité avait son calendrier de festivités. Ainsi, les Dionysies, qui se célébraient tous les ans à Athènes, étaient des fêtes somptueuses avec des festins. On a remarqué que fêtes et festins ont une même origine. Des processions dans lesquelles figuraient des allégories à caractère parfois délibérément sexuel, et enfin des représentations théâtrales. À Athènes encore, les Panathénées sont le cadre d'épreuves sportives comme le seront les fameux Jeux qui se déroulaient à Olympie, bien sûr. À Rome, où l'on jouit aussi de beaucoup de temps libre, une multitude de fêtes sont organisées par un pouvoir très centralisateur. Ce sont pour la plupart des fêtes religieuses qui donnent lieu à des cérémonies marquées par leur caractère militaire, mais aussi par les jeux dont les citoyens romains sont friands.
Donc ça c'était l'Antiquité, le Moyen-Âge ensuite je suppose.
Vous supposez bien. Un Moyen-Âge marqué, nous le savons, par une forte influence de la religion chrétienne qui impose peu à peu à toute l'Europe son calendrier de fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, etc., qui pour le petit peuple laborieux des villes et surtout des campagnes, constitue pendant des siècles, avec les dimanches, les seuls jours non travaillés. Néanmoins, des traditions festives païennes ont subsisté, comme celle du carnaval, que l'on dit héritier des Saturnales romaines, particulièrement, disons, débridées.
Alors, c'est-à-dire, quand on parle de carnaval, on pense à celui de Rio, ce qui n'est pas forcément en Europe.
Le carnaval, s'il a gagné effectivement le Brésil et des terres lointaines du fait de la colonisation, c'est bien en Europe qu'il est né et s'est imposé. Et curieusement, cette fête du plaisir et des débordements, des hommes déguisés en femmes, des domestiques jouant au maître, etc. Cette tradition est liée à un temps religieux plutôt austère, celui du carême qu'il précède. Le Mardi Gras, qui est la veille justement de l'entrée des chrétiens dans le jeûne et l'abstinence. Quelques exemples de carnaval, si vous voulez bien. Celui de Venise a pris au XVIIe siècle une ampleur. Il durait alors une bonne partie de l'hiver et une notoriété inégalée avec ses masques et ses déguisements luxueux qui masquaient, c'est le cas de le dire, tout un monde de débauche. En Hongrie, le carnaval des Buzos à Mohács est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. À Cologne, en Allemagne, ce sont depuis 200 ans les folles journées, de folles journées qui évoquent aussi ces fêtes des fous dont notre Moyen-Âge était friand.
Des fêtes des fous, dites-vous.
Oui. Dès le XIIe siècle, à Paris et dans le nord de la France et de l'Europe, de curieuses mascarades sont apparues dans un cadre religieux d'abord, des parodies de cérémonies religieuses dans lesquelles les couches les plus modestes de la hiérarchie religieuse, sous-diacres, étudiants, etc., élisent le pape des fous, se déguisent en bouffons avec leurs bonnets multicolores munis de grelots et avec la marotte, une sorte de sceptre détourné. Une fête des fous ouvre d'ailleurs le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et même la comédie musicale qui en a été tirée. L'Église mettra quelques siècles à interdire ces festivités et leur débordement incontrôlé. Le thème de la fête est d'ailleurs, du fait de ses couleurs et de sa fantaisie, un sujet de prédilection pour les peintres européens.
Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner ?
En commençant par Pieter Bruegel l'Ancien, ce peintre flamand du XVIe siècle dont on a sûrement vu ces scènes de kermesse endiablées avec des paysans et paysannes aux trognes truculentes qui dansent, boivent et ripaillent au son de la cornemuse. Dans un style beaucoup plus retenu, j'évoquerai les fêtes galantes d'Antoine Watteau, ce peintre du début du XVIIIe siècle, et leurs personnages costumés, des femmes dans d'élégantes robes de bal qui s'ébattent dans des parcs de châteaux. Un thème des fêtes galantes qui a inspiré un siècle plus tard, non un peintre, mais un poète, Paul Verlaine, qui en a donné le nom à l'un de ses recueils. Et à l'époque de Verlaine, justement, c'est un grand impressionniste, Auguste Renoir, qui admire Watteau et compose lui aussi ses scènes de fête ou de réjouissance, les bals au Moulin de la Galette, entre autres. Un peu plus tard, Chagall fera lui aussi rentrer dans ses tableaux l'étrangeté des fêtes de sa Biélorussie natale.
Et vous nous reparlerez de fêtes la semaine prochaine ?
Oui, mais de fait un peu plus officiel et moins fantaisiste.
Pour savoir lesquels, rendez-vous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, Jean-Pierre, bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.